marche du monde. Valérie Nivelon.
Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine à l'histoire de la jeunesse en marge. Abandonnée, orpheline, contestataire ou délinquante, la France serait-elle foutue quand sa jeunesse est dans la rue ?
Il y a tellement de jeunesse. C'est un sujet tellement compliqué. On ne peut que mal en parler. Vous voilà prévenus. Maintenant, on continue.
C'est l'histoire du passage de la jeunesse à l'âge adulte. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'épreuve à passer qui fait qu'on est un adulte.
Ils viennent des quatre coins de la banlieue pour faire connaître leur culture, celle de la rue.
Mais paradoxalement, ce sont souvent les jeunes qui font peur.
Mais nous ne croyons pas, aujourd'hui, que la violence serait une arme efficace.
Ce que nous devons faire comprendre, ou apprendre aux plus jeunes, c'est que chacun est responsable, non seulement de lui-même, mais aussi de l'harmonie et du bon fonctionnement de notre société. C'est pourquoi j'appelle chacun à prendre ses responsabilités.
C'est en 1976 que pour la première fois l'expression « violence des jeunes » devient officielle. Le Premier ministre Jacques Chirac vient en effet d'instituer un comité d'études sur la violence, la criminalité et la délinquance. La France aurait-elle peur de sa jeunesse ? Et plus particulièrement des filles et des garçons qui ont pris la rue et la parole quelques années plus tôt, en 1968. Car la jeunesse, en tant que groupe sociologique, est un phénomène nouveau, apparu dans les années 50 dans une société française en pleine expansion économique. En effet, dans cette France de l'après-guerre, on n'est plus obligé d'aller travailler à 12 ou 14 ans. Les enfants ont la chance de pouvoir étudier et de devenir des adolescents.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux.
Et pour mieux comprendre la relation tumultueuse de la France à sa jeunesse, j'ai convié l'historien et professeur des universités Mathias Gardet. Bonjour Mathias.
Bonjour.
Vous travaillez spécifiquement sur les politiques sociales à l'égard de la jeunesse et vous proposez une histoire sensible et très documentée d'une jeunesse en difficulté depuis le 19e siècle jusqu'à nos jours. C'est aux éditions Textuelles. Alors moi, ce qui m'a frappé en lisant votre livre, qui est un album très très riche en iconographie, c'est l'évolution du regard porté sur nos enfants à travers les siècles. Comment pourriez-vous en quelque sorte définir cette évolution, Mathias Gardet, du 19e donc jusqu'à aujourd'hui?
Alors c'est vrai que vous avez utilisé à la fois jeunesse et enfant, et c'est vrai qu'on met dans le même paquet les enfants jusqu'aux jeunes adultes finalement, et c'est ça un peu peut-être la différence qui se joue au cours des siècles. Au 19e siècle, on a avant tout peur des enfants des milieux populaires qui sont dans la rue pas forcément parce qu'ils n'ont pas de lieu où habiter, hein, mais qui sont dans la rue parce que il y a des espaces du jour, hein, où ils n'ont pas de place chez eux, parce que chez eux c'est devenu un lieu de travail, parce que c'est un creux pas toujours couvert par l'école, ou parce qu'on fait l'école buissonnière, parce que les villes commencent à prendre de plus en plus de place, et donc il y a de plus en plus d'enfants dans la rue. Ensuite, peut-être au cours du temps, on a plus peur pour les enfants à cause de la Première Guerre mondiale. Hein, on a une peur démographique avant tout, on a peur de pas avoir assez d'enfants. Et tout d'un coup, donc la peur est différente, hein, c'est la peur qu'on n'ait pas les forces pour renouveler la nation. Et puis arrive la Seconde Guerre mondiale, et là, la peur change à nouveau. On a encore peur pour les enfants, on a peur surtout des effets qu'a pu faire la guerre sur les enfants. Pour la première fois, on pense à l'enfant victime de la guerre. Et en l'espace de même pas une génération, c'est absolument fascinant, tout bascule, puisqu'on s'est complètement trompé sur les prévisions démographiques qu'on avait faites, et tout d'un coup, on a peur de cette jeunesse qui est devenue très nombreuse, et du coup, très visible.
Alors du petit vagabond au jeune migrant isolé, de nombreux épisodes racontent cette histoire de la jeunesse en marge, et c'est sur la période de la plus contemporaine que je vous propose de nous attarder, Mathias Gardet, à partir de 1945 et de sa fameuse ordonnance, ici présentée par l'académicien Maurice Garçon à l'Université des Annales.
Et nous avons maintenant une ordonnance du 2 février 1945 qui a modifié complètement tout ce qui avait été fait antérieurement. C'est un texte fondamental. Le principe de cette loi est que l'on supprime les limites artificielles qui étaient dans notre ancien code des enfants de moins de 13 ans, de moins de 16 ans, de moins de 18 ans. Et c'est devant un juge spécialisé que l'on vient apporter et amener l'enfant qui vient d'être arrêté.
Alors Mathias Gardet, l'ordonnance de 1945, c'est la création des tribunaux pour enfants. Et c'est une logique nouvelle, si je comprends bien, c'est plus seulement réprimer, c'est aussi éduquer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à l'époque quelle est la préoccupation du gouvernement provisoire de la République française, dirigé par le général de Gaulle ?
Je crois qu'on est vraiment, comme je le disais avant, dans une préoccupation encore très démographique. On n'a pas du tout vu qu'en fait les Français et les Françaises sont en train de faire beaucoup d'enfants. On a un sentiment aussi de culpabilité vis-à-vis de cette enfance qui a vécu la guerre, qui a été traumatisée par la guerre. Et c'est vrai que on porte un regard particulièrement indulgent sur une enfance qui a pourtant été en prise avec la guerre, qui a joué avec la guerre et qui même après la guerre continue avec une certaine violence à utiliser des armes de guerre pour faire des petits délits parce que les armes sont là, omniprésentes partout. Mais il y a une phrase fantastique du juge Jean Chazal qui définit parfaitement le nouvel esprit de cette ordonnance de 45, en reprenant d'ailleurs une phrase d'un juge américain. Il dit: quand on vole une bicyclette, c'est pas la bicyclette qui m'intéresse, c'est le jeune qui l'a volée.
Donner à tous nos enfants des chances égales pour s'engager aussi loin que leurs aptitudes le leur permettent sur la route montante du savoir, et pour y parvenir, rapprocher, harmoniser nos programmes dans les années fondamentales qui correspondent au niveau des 6e et 5e de tous nos établissements, charpenter notre enseignement technique et l'ouvrir directement sur notre enseignement supérieur. Enfin, consacré par la loi à la prolongation scolaire, en portant l'obligation à partir de 1967 à 16 ans.
Le ministre de l'Enseignement, Jean-Marie Berthoin, en 59, annonce le prolongement de la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans. Et vous soulignez, Mathias Gardet, dans votre livre, qu'il faut attendre justement 1959 pour que le démographe Alfred Sauvy tire le signal d'alarme dans son ouvrage « La montée des jeunes ». Et vous le citez: toujours est-il que ces jeunes sont là, ils vont faire parler d'eux, non seulement par leurs besoins, mais bientôt par leurs idées, par leurs actes. La jeunesse ne se laissera pas étouffer, et si nous restions dans nos vieilles méthodes, les jeunes feraient éclater tout le système. Mais alors qu'est-ce que sont ces vieilles méthodes contre lesquelles Alfred Sauvy met les politiques en garde?
Alors, je pense qu'il met, c'est pas seulement la méthode, c'est le fonctionnement de la société française de l'après-guerre, qui n'a absolument pas prévu justement cette arrivée massive des jeunes, qui n'a pas prévu de les intégrer ni dans le marché du travail, ni même, je dirais, de les intégrer dans les plans d'équipement. Des choses, par exemple, tout à fait simples, c'est l'équipement de logement. C'est une énorme crise. Il y a de plus en plus de gens qui viennent vivre en ville. En plus, on s'en rend compte progressivement, il y a de plus en plus de gens numériquement. Il y a une espèce de boom démographique. Et dans cet équipement qu'on construit en toute urgence, qui vont donner les cités d'aujourd'hui, on n'a absolument rien prévu, par exemple, pour les jeunes. Des équipements sportifs, des équipements culturels, des équipements de jeux, tout simplement, des aires de jeux. Et on a toute une série d'experts ou de gens sur le terrain qui tirent déjà très tôt le signal d'alarme en disant qu'on est en train de faire une concentration de gens absolument phénoménale dans certains lieux et que, pour le moment, c'est encore des couples avec des tout jeunes enfants en poussette, mais que dans 10 ans, ce sera, dans 10-15 ans, ce sera des jeunes adolescents, et ils annoncent des chiffres tout à fait faramineux. On va avoir tout d'un coup, au pied de certaines tours qu'on commence à construire ou de certains barres d'immeubles, on va avoir 3000, 5000, voire 10 000 adolescents, et il n'y a absolument rien prévu pour eux.
En effet, en 1963, la jeunesse représente déjà un tiers de la population française. Ils sont donc 15 millions, avoir moins de 20 ans, et 150 000 d'entre eux créent la surprise au concert de leurs idoles Yéyé le 22 juin 1963. Nous sommes place de la Nation à Paris.
Information générale, peu de choses à dire ce soir. Cependant, sur le cours de Vincennes, des places de la Nation, à Paris, on dresse aujourd'hui le triste bilan de la nuit du twist.
Oui, une voiture entièrement disloquée, 9 vitrines brisées, 2 becs de gaz abattus par les fans qui s'étaient déplacés en nombre, on parle même de 200 000, on doit un peu exagérer, et qui ont applaudi Johnny, Sylvie et Richard.
Est-ce que vous aimez le rock ?
Enfin, musée, je connais l'endroit.
Pour danser le Madison.
Est-ce que vous voulez mettre de l'ambiance ?
Ce soir.
Et si ce soir vous sortez pour flirter, avec l'espoir de vouloir vous placer, vous serez tristé comme on vous a montré, je suis sûr que vous gagnerez. Hey
allez les copains, on va faire le twist.
Les copains s'étaient même installés sur le store d'un café pour mieux voir. Le propriétaire de la brasserie des Colonnes, qui n'a plus de store, a attaqué en justice les organisateurs. Enfin, ce qui est plus grave, une jeune fille de 17 ans a été violentée place de la Nation. Elle a dû recevoir des soins à l'hôpital et le commissaire de police du quartier a ouvert une enquête.
La génération yéyé, c'est le sociologue Edgar Morin qui analyse le premier le phénomène, une génération à laquelle la presse ne donne presque pas la parole. Seule exception, la télévision en noir et blanc et son unique chaîne à la RTF dans l'émission Âge tendre et tête de bois animée par Albert Reisner.
Bonjour toutes les têtes de bois, et comme les aînés nous font l'amitié de nous suivre également, je dirais tout simplement bonjour aux jeunes de tous âges. Eh bien, je sais que vous, les têtes de bois, vous avez fait venir tous les copains du voisinage pour les grouper autour de votre téléviseur. Et je voudrais...
Chaque émission, entre deux danses, entre deux twists, entre deux rocks, entre deux choses qui chauffent, on donne le micro et vous avez le feu vert pour un petit débat improvisé. Alors, qui veut le micro ? Hein ? Ici, comment t'appelles ?
Gilbert.
Profession ?
Employé de banque.
Ton âge ?
18 ans.
Allez, vas-y, de quoi on parle ?
Je pense qu'on pourrait parler des événements qui ont eu lieu à la Nation, qui ont suffisamment remué l'opinion publique.
Vous êtes d'accord ?
Oui. C'était un samedi soir, il faisait beau, on sortait en...
Tu étais allé pour quoi, toi ?
Surtout pour applaudir nos idoles.
Je pense qu'il ne faut pas nous jeter trop vite la pierre, car les personnes d'un certain âge, elles aussi, font chahut.
Oui, parce que moi, je suis allée place de la Nation.
Oui.
Oui. Et il y avait des personnes de plus de 40 ans qui dansaient le twist, qui entraînaient les jeunes. Et d'ailleurs, place de la Nation, il y a quelquefois des débats politiques et qui font beaucoup plus de dégâts que ce qu'il y a eu.
Oui.
Dans les années 60, la génération yéyé travaille ou étudie mais n'a toujours pas le droit de vote. Une génération sous pression dont les idoles yéyé expriment le ras-le-bol en chanson.
Fais pas si, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Touche pas ça, fais dodo, dis papa, dis maman. Fais pas si, fais pas ça, ah tata, prout prout cadet, à cheval sur mon bide. Mets pas tes doigts dans le nez, tu suces encore ton pouce. Qu'est-ce que t'as renversé, ferme les yeux, ouvre la bouche. Pour pas tes ongles vilains, va te laver les mains. Ne traverse pas la rue, sinon pantant tu tues. Fais pas si, fais pas ça, ah tata, prout prout cadet, à cheval sur mon bide. Laisse ton père travailler. Viens donc faire la vaisselle, arrête de chamailler, réponds quand on t'appelle. Sois poli, dis merci à la dame, laisse ta place. C'est l'heure d'aller au lit, faut pas rater la classe. Fais pas si, fais pas ça, à dada, poutre de cadet, à cheval sur mon bide. Tu me fatigues, je n'en peux plus, dis bonjour, dis bonsoir. Ne cours pas dans le couloir, sinon pendant tu tues. Fais pas si, fais pas ça, viens ici au toit de là. Prends la porte, sors d'ici, écoute ce qu'on te dit. Fais pas si, fais pas ça, à dada, poutre de cadet, à cheval sur mon bide. Tête de mule, tête de bois, tu vas recevoir une bête. Qu'est-ce que t'as fait de mon peigne, je ne le dirai pas de voix. Tu n'es qu'un bon à rien, je le dis pour ton bien. Si tu ne fais rien de meilleur, tu seras meilleur. Fais pas si, fais pas ça, à tada pour trop de cadet. À cheval sur mon bidet, vous en faites pas les gars. Vous en faites pas les gars. Moi aussi on m'a dit ça. Fais pas si, fais pas ça, fais pas si, fais pas ça. Et j'en suis arrivé là, et j'en suis arrivé là. Et j'en suis arrivé là, 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 là. Là, là, là.
La France a mal à sa jeunesse chantée par Jacques Dutronc en 1968, cette jeunesse qui fait justement son insurrection juvénile en mai 68. Alors Mathias Gardet, pour l'historien que vous êtes, est-ce que c'est une prise de pouvoir de la jeunesse ou est-ce que c'est l'expression d'une jeunesse en marge 68 ?
Alors, tout dépend du 68 dont on parle. Hein. Mai 68, il ne faut pas oublier que c'est avant tout, du côté de la jeunesse, une révolte étudiante, étudiante aisée, hein, étudiante des beaux quartiers de Paris. Hein, et c'est ça qui inquiète tout d'un coup aussi, c'est que même une jeunesse plutôt dorée hein, se révolte contre l'ordre établi, contre le cadre qui lui était proposé, cadre d'apprentissage, mais même l'avenir qu'on lui propose.
Donc c'est bien une marge de la jeunesse qui s'exprime.
C'est une marge mais pas marginal. C'est ça qui est intéressant, comme quoi vraiment, il faut toujours prendre garde hein, quand on parle de jeunesse en marge, c'est pas forcément qu'on parle de marginaux, mais bien de gens qui se sentent en marge à un moment donné de la société.
Donc ce mouvement de 68 est l'expression d'une partie de la jeunesse, Mathias Gardé, mais en quoi c'est un marqueur fort dans cette histoire de la jeunesse en marge ?
C'est un marqueur fort justement parce que ça déplace les marges. Ça déplace les marges dans le fait que justement c'est pas simplement des jeunesses des milieux populaires qui s'expriment, hein, mais c'est des jeunesses de milieux bourgeois hein, qui expriment à leur tour leur ras-le-bol hein, et qui donnent tout d'un coup une voix à une génération et non pas simplement à une classe sociale. Et je pense que ce phénomène-là hein, prend une ampleur toute particulière puisque c'est des jeunes qui ont les moyens de se faire entendre par rapport à d'autres qui ont le moyen de s'exprimer hein, et que leur voix soit entendue et du coup ça donne une certaine ampleur au mouvement. Et puis il faut pas oublier hein, que derrière 68 aussi il y a toute la pesanteur du contexte politique qui était là derrière avec la fin des guerres coloniales, des guerres qu'on n'a pas nommé guerre, mais qui ont été vécues.
Guerre d'Algérie
notamment, qui ont été vécues par toute cette génération, notamment par exemple la génération des blousons noirs, dont on n'a plus entendu parler parce qu'ils sont partis à la guerre d'Algérie. Hein, donc c'est toute une aussi une pesanteur politique, hein, une pesanteur d'expression hein, qui est ressentie par l'ensemble d'une génération. Et donc la marge, hein, encore une fois, c'est pas simplement des jeunes qui seraient en difficulté, en précarité. Hein, la marge, c'est des jeunes qui ne se sentent pas à leur place dans une société à un moment donné.
Et à l'époque, la solution proposée par Charles Hernu pour ces 2 600 000 jeunes de 18 à 21 ans qui ne trouvent pas d'expression politique, c'est justement le droit de vote.
Un des meilleurs moyens de participer à la décision politique, c'est de voter. C'est pourquoi nous demandons que la proposition de loi numéro 617 déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale par la Fédération de la gauche soit inscrite d'urgence à l'ordre du jour de l'Assemblée. C'est une proposition de loi qui ramènerait l'âge de la majorité civique de 21 ans à 18 ans. Pour la France, permettez-moi de vous dire qu'à partir de 18 ans, on a le droit d'être un chômeur. Qu'à partir de 18 ans, et même 17 ans maintenant, on a le droit de s'engager dans l'armée. Qu'à partir de 18 ans, on a le droit de se marier, d'avoir des enfants, d'avoir ses responsabilités. Qu'à partir de 18 ans, si l'on a commis un larcin, on est condamné par les tribunaux. Qu'à partir de 18 ans, on est un homme, on est une femme.
Enfin, en tout cas, il faudra attendre 1974 et l'élection de Valéry Giscard d'Estaing pour obtenir le droit de vote à 18 ans. Et cette jeunesse, elle a déjà le droit d'être au chômage. C'est une phrase qui résonne particulièrement aujourd'hui, Mathias Gardé.
Bah, particulièrement parce que je pense qu'on a oublié à quel point on a été dans une France du plein emploi. J'ai retrouvé des dossiers, par exemple, de jeunes dans une très grande difficulté familiale et sociale, et on les voit jongler tous les 3 mois avec des emplois différents. Ils en ont assez, ils partent, et à peine 3 jours après, ils retrouvent un travail.
Ça fait rêver.
Ce contexte-là est évidemment absolument pas le même, et donc une jeunesse qui fait certes peur à un moment donné, mais elle est casée. Hein, même les blousons noirs, c'était des gens qui travaillaient, qui avaient un emploi, et même ceux qui étaient interviewés tout à l'heure se présentaient comme travailleurs.
Et avec les années 70, le chômage et la ségrégation sociale vont augmenter. Et c'est la question de la violence des jeunes, mais aussi de la violence contre les jeunes, qui va se porter au centre de la génération Contestation. C'est la suite de l'histoire d'une jeunesse en marge. Et c'est à suivre avec notre invité Mathias Gardé, juste après les infos sur RFI.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Suite de la marche du monde consacrée à l'histoire d'une jeunesse en marge avec notre invité historien Mathias Gardé pour son livre éponyme aux éditions textuelles que nous retrouvons juste après le dernier live des Berruriers Noirs à l'Olympia en 1989. Un appel à la mobilisation contre les discours de haine.
Allez, levez les doigts, levez les doigts, tous les doigts. Alors, on vous fait confiance, plus jamais de 20%.
La culture punk ou la révolte en musique, c'est la bande-son de la fin des années 80 en France, chantée par les Berruriers Noirs, Star Shooter ou Métal Urbain, un courant inspiré par les États-Unis ou l'Angleterre, dont la figure emblématique reste les Sex Pistols, qui chantent No Future, et cela dès 1977. Mathias Gardet, vous qui réfléchissez sur le temps long en tant qu'historien, pensez-vous que vous pourriez faire cette histoire de la jeunesse en marge à travers justement la musique, et pourquoi pas des chansons du 19e, du 20e ou du 21e siècle?
En tout cas, on pourrait faire une histoire de la perception craintive de la musique écoutée par les jeunes. Successivement, on a honni le rock'n'roll, on a honni la musique punk, et plus récemment, on a honni les paroles de la musique rap, comme on fera sur les prochaines musiques qui viendront. C'est une histoire qui pourrait être en effet une histoire à faire, une histoire qui doit croiser, à mon avis, l'histoire de ceux qui la composent, de ceux qui l'écoutent et de ceux qui la perçoivent de l'extérieur.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que ce No Future, chanté par les Sex Pistols en 77, hein, c'est donc la naissance du punk. 77, c'est aussi l'année où Jacques Chirac commande son rapport sur la violence des jeunes, et c'est donc la première fois dans l'espace public qu'officiellement on accole ces deux termes, jeunesse et violence.
Alors ce rapport est tout à fait fascinant, il fait suite, hein, il faut le rappeler, aux premières émeutes de grande ampleur dans la banlieue lyonnaise, notamment hein, aux Minguettes, à Villeurbanne, qui a démarré dès les années 73 et qui a occupé la une de la presse. C'est ça qui explique très certainement hein, cette commande d'un rapport sur la violence des jeunes, un mot qui jusque-là était totalement absent, hein, notamment des thésaurus, des bibliothèques expertes sur la jeunesse. Mais quand on regarde ce rapport, donc qui est commandité par Jacques Chirac, qui est coordonné par Alain Perfit, qui sera plus tard celui qui fera la première loi sécurité et liberté de 1981, on est totalement fasciné par le ton qui est donné à ce rapport,
c'est-à-dire
qui n'est pas du tout le ton attendu.
Oui.
C'est-à-dire, au lieu de faire un exposé sur la violence réelle qui aurait été en augmentation de la jeunesse, pour la première fois, ce rapport pointe le sentiment d'insécurité qui, dit ce rapport, est en total décalage par rapport à la réalité de cette violence. Et finalement, ce rapport s'interroge avec énormément de force si l'augmentation, c'est pas celle du sentiment d'insécurité, plus que celle d'une violence des jeunes.
Alors vous expliquez, Mathias Gardet, que cette question de la violence, elle est au cœur hein, du débat sur la politique sociale à l'égard de la jeunesse. Et vous précisez, violence des jeunes, mais aussi violence à l'égard des jeunes qui subissent une ségrégation sociale et spatiale. Alors que s'est-il passé dans cette France des Trente Glorieuses, où chaque enfant était censé s'épanouir entre l'école, le frigidaire et la télévision ?
Alors, dans cette France des Trente Glorieuses, d'abord, on a construit massivement les fameuses banlieues hein, qu'on connaît aujourd'hui, où on retrouvait concentrée une population extrêmement importante.
C'était quand même l'idée aussi, Mathias Gardet, de donner du confort à des familles qui, pour certaines, étaient encore dans des bidonvilles, hein, comme à Nanterre, par exemple.
Tout à fait, ou pour répondre vraiment à une crise du logement, il ne faut pas oublier que pour la première fois, la France est massivement citadine. Hein, donc il y a un afflux non seulement démographique, mais aussi un afflux des gens de la campagne vers la ville, hein, qui transforme complètement le paysage de la France. Et puis, ce qui s'est passé dans les Trente Glorieuses, c'est justement c'est la fin des Trente Glorieuses. Hein, que cette croissance économique qui, bon an, mal an, a touché à peu près toutes les classes de la population et toutes les régions de France, s'interrompt, notamment avec les chocs pétroliers des années 70. Et malgré l'optimisme de la vignette que je me rappelle encore avoir dans ma chambre, la France n'a pas pétrole, mais elle a des idées, hein, les idées n'ont pas été suffisantes pour pallier à cette crise pétrolière.
Et le chômage apparaît.
Et le chômage apparaît. Et pour la première fois, le chômage des jeunes voilà. Massivement apparaît.
Et c'est l'apparition des cas sociaux. Alors, ce terme de cas sociaux, on le retrouve dans votre livre parce qu'il est très daté en réalité.
Alors, cette apparition du cas social, en fait, va prendre le relais de la terminologie autour des orphelins. Et c'est au tournant des années 50-60 hein, qu'on va se centrer sur ce qu'un psychiatre appelait très joliment le no man's land de la misère. C'est-à-dire tous les jeunes qui ne sont pas pris en charge parce que pas suffisamment malades ou pas suffisamment délinquants pour faire l'objet d'une mesure sociale. Et pourtant, sont signalés de plus en plus de cas de jeunes qui se retrouvent dans des difficultés familiales et sociales particulières et qui demanderaient justement une aide et une prise en charge.
Et c'est à ce moment-là aussi qu'une institution emblématique dans la protection de l'enfance, comme l'œuvre d'Auteuil, se réforme. Alors pourquoi et de quelle façon ?
Alors, elle se réforme d'abord parce qu'au début, elle s'était centrée sur les orphelins de guerre. Et il y en a de moins en moins. Et très rapidement, justement, l'œuvre s'interroge sur le fait est-ce qu'elle continue ou est-ce qu'elle s'arrête puisque sa mission première est terminée. Et en fait, très rapidement, la mobilisation et tout ce qui a été mis en œuvre, il y a la décision de poursuivre l'action des orphelins vers les jeunes en difficulté familiale, vers les jeunes en difficulté sociale. Elle est loin d'être la seule œuvre qui va faire cette reconversion puisqu'on trouve beaucoup, beaucoup d'œuvres qui s'étaient occupées auparavant d'orphelins qui, dorénavant, vont créer des maisons d'enfants à caractère social, justement pour ces fameux cas sociaux.
Les nuits chaudes de Lyon. Hier soir encore, les voyous ont volé des voitures. Une grande soirée de rodéo du stock car à Vaux-en-Velin, Vénissieux et Villeurbanne. Les voitures ont été incendiées. Aujourd'hui, les habitants de ces banlieues envisagent de créer des comités de défense. Le maire de Villeurbanne, Charles Hernu, se fâche. Pour lui, c'est l'autorité légale qui doit rétablir le calme et la sécurité.
En tant que maire, je considère que les citoyennes et les citoyens doivent être protégés dans la sécurité de leur personne et de leurs biens. Et ceux qui sont des délinquants doivent être punis. Mais ce serait extrêmement grave que de prétendus comités d'autodéfense se constituent, que, comme cela s'est fait dans ma ville, un monsieur vient de dire « je dispose de 60 fusils, je tirerai dès que je vois une chéchia », etc. Ce sont des propos racistes inadmissibles. Tout ce qui menace l'ordre public est inadmissible, aussi bien celui qui vole la voiture et qui la brûle que celui qui prétend rétablir l'ordre lui-même. À mes yeux, ils sont tous coupables.
Charles Hernu, maire de Villeurbanne, se fâche en 1981, mais ces violences urbaines, Mathias Gardé, elles sont apparues, vous l'avez signalé, au tout début des années 70, en réalité. Mais alors, ce qui me frappe aussi, moi, c'est ce vocabulaire pour désigner ces jeunes qui ont grandi dans le béton. Ce vocabulaire a changé. Effectivement, on ne parle plus de blouson noir, mais de quoi parle-t-on ?
Bien, on va commencer à parler des casseurs. C'est le début de l'emploi. Mais la grande différence, je trouve, entre les années 70 et aujourd'hui, c'est qu'on en parle avec une grande prudence. C'est-à-dire qu'on donne beaucoup la parole à ces jeunes des cités qui n'avaient pas l'habitude encore et qui ne sont pas encore un objet de chantage des médias pour faire du micro-trottoir à la petite semaine et qui vont se livrer et qui vont témoigner aussi de leur situation et de leur vie dans les cités. Et puis, comme le montre aussi le rapport sur la violence de l'Imperfit, on va mettre côte à côte l'idée de la violence que peuvent effectivement commettre ces jeunes dans cet environnement, mais aussi la violence qu'ils subissent dans cet environnement. Et je trouve que cette mise en corrélation des deux phénomènes, aujourd'hui, est en grande partie oubliée. Et je trouve qu'il y a une dégradation du vocabulaire employé pour les désigner aujourd'hui.
Vous parlez de stigmatisation ?
De stigmatisation, des emplois de vocabulaire comme les sauvageons, ou de vocabulaire encore plus stigmatisant et plus récent dans notre histoire politique, qui va faire de ces jeunes, non pas des jeunes de notre société, mais plutôt comme une tribu à part, une tribu dangereuse qui aurait envahi et qui aurait gangréné certains secteurs géographiques de notre société.
Partout où c'est nécessaire, les préfets pourront, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, appliquer le couvre-feu, s'ils l'estiment utile, pour permettre un retour au calme et assurer la protection des habitants. C'est notre première responsabilité, c'est notre premier devoir. Et les préfets décideront, à l'intérieur de ces territoires, les quartiers les plus sensibles, où ils jugent que de telles mesures doivent être prises.
Les banlieues explosent les unes après les autres en France des années 70. On vient d'entendre en novembre 2005 le Premier ministre Dominique de Villepin autoriser l'utilisation du couvre-feu à la discrétion des préfets. Alors vous citez aussi dans votre livre, Mathias Gardé, le succès de Mosquito. C'est un système d'ultrasons imaginé pour éloigner les jeunes indésirable, c'est une blague ou c'est...
Et non, c'est
pas une blague.
C'est pas une blague, c'est un système qui a été breveté en Angleterre par un ingénieur dont la fille avait été agressée et qui a donc inventé ce système acoustique en s'apercevant que certains ultrasons étaient particulièrement agressifs pour des oreilles adolescentes et qu'avec l'âge, on ne les entendait plus et on n'était plus agressé par ces sons.
Donc il s'agissait de s'en servir de quelle façon ?
Alors il s'agissait de le mettre dans les lieux stratégique où pouvaient se réunir les jeunes pour les empêcher de stationner, de se regrouper par exemple devant un grand magasin, devant une banque ou devant un immeuble. Ce système a été breveté et est vendu largement en Angleterre et a été exporté en France sous le nom absolument incroyable de Beethoven. Quand on pense qu'il était sourd, c'est quand même un usage tout à fait particulier de ce brevet, et en Suisse et en Belgique. Et finalement, 3 ans après la vente de cette invention va être stoppée puisqu'il y aurait un procès d'un jeune qui aura eu des migraines particulièrement virulentes suite justement à avoir été soumis à ces ultrasons et il y a une peur d'une cascade de procès et plusieurs pays dont la France vont décider d'interrompre cette commercialisation. Mais ce n'est pas de la science-fiction.
Alors entre répression et mauvaise plaisanterie, il y a aussi des réponses qui viennent des citoyens eux-mêmes et je pense à la formidable initiative de la Marche des Beurs soutenu par le père Delorme, jusqu'au bout.
Alors, avec cette marche, nous voulons essayer de mettre sur la place publique le débat sur la question de cette France qui devient pluriethnique, multiculturelle, essayer d'expliquer aux gens que c'est une richesse pour notre pays, que tous ces gens venus d'ailleurs, qui ont participé à son essor économique et qui aujourd'hui apportent un sang neuf et au plan démographique et au plan culturel. Dans ce pays, il y a des hommes de la fraternité, nombreux, qui ne veulent pas que notre nation sombre dans un racisme qui rappelle de trop mauvais souvenirs. Et j'espère que cela encouragera le gouvernement de la République à prendre des mesures plus concrètes et plus courageuses au niveau de l'insertion des communautés étrangères.
En 1983, la marche pour l'égalité et contre le racisme réussissait à rassembler tout de même 100 000 personnes à son arrivée à Paris. Alors est-ce qu'à l'époque, ce mouvement a changé quelque chose dans le regard sur les casseurs, puisque c'était jusque-là la seule représentation utilisée dans les médias pour désigner cette jeunesse en marge des banlieues, Mathias Gardet ?
Je crois que pour la première fois, ça a donné massivement voix à une génération issue de l'immigration. Et c'est la première fois qu'on va employer généraliser ce terme de beurre avec des slogans merveilleux qu'on a oublié aujourd'hui, comme le slogan de la mobilette. La France est comme une mobilette, pour qu'elle marche, elle a besoin de mélange.
Les zones de banlieue sont pour certaines déclarées zones prioritaires également en 1983. Et Ségolène Royal, en 1998, invente le concept de priorité dans les zones prioritaires.
Mes priorités pour les zones d'éducation prioritaire, c'est d'abord de relancer cette logique qui consiste à donner plus à ceux qui ont le moins. C'est de régler le problème de l'échec scolaire profond de certains élèves, et donc qu'il y ait vraiment un traitement spécifique, soit des élèves extrêmement perturbateurs, avec leur prise en charge dans des classes relais, en dehors de l'établissement scolaire, soit pour des élèves en grave difficulté scolaire, pour vraiment qu'ils aient un soutien individualisé spécifique qui leur permette de reprendre le mouvement de la réussite scolaire, ou tout du moins de lutter contre l'exclusion scolaire.
La ministre adjointe à l'Éducation nationale remet l'éducation au centre de la problématique des zones prioritaires, soutenue par son Premier ministre Lionel Jospin.
Les ZEP doivent lutter de manière encore plus efficace contre l'échec scolaire et les inégalités sociales. Sur ce point, vos travaux au cours de ces assises, à partir des exemples de réussite, esquissent les voies à suivre. Elles exigent d'abord un pilotage des ZEP à la fois national et académique pour animer, gérer et évaluer le dispositif. Elles supposent aussi des ZEP à taille humaine, ce qui est loin d'être toujours le cas, ainsi que la présence d'équipes d'encadrement particulièrement disponibles et compétentes. Elles impliquent enfin de conserver ou de rétablir une certaine diversité de la population scolaire dans chaque ZEP afin d'éviter un effet de ghetto.
Et quelques années plus tard, en 2005, le président Jacques Chirac rappelle à l'ordre général, suite à de nouvelles violences dans de nombreuses banlieues, suite à la mort de 2 adolescents électrocutés dans l'enceinte d'un poste électrique à Clichy-sous-Bois, il voulait échapper à un contrôle de police.
Le dernier mot doit revenir à la loi. La République est tout à fait déterminée par nature à être plus forte que ceux qui veulent semer la violence ou la peur. Et ceux-là seront appréhendés, jugés et punis. L'évolution des choses suppose le respect de chacun, la justice et l'égalité des chances. Mais il y a un préalable. Il s'agit du rétablissement de la sécurité et de l'ordre public.
Entre répression et éducation, décidément, le cœur de la France balance.
France Inter.
En 2006, près de 100 000 enfants en danger ont été signalés aux services sociaux, dont 20 000 étaient maltraités. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement a mis au point une réforme de la protection de l'enfance. Objectif, Franck Madvon, détecter le plus tôt possible et le plus souvent les cas de maltraitance.
Aujourd'hui, si un professeur ou une assistante sociale constate qu'un enfant ne vient pas à l'école, qu'il est sale, très maigre ou qu'il porte des traces de coups, il n'existe aucun interlocuteur spécifique. Parfois la police est contactée, parfois la justice ou le conseil général. Du coup, certains cas ne sont jamais signalés aux services sociaux. Le projet de loi crée dans chaque département une seule cellule qui traitera toutes ces informations dites préoccupantes. Mais il faut aussi améliorer la prévention, d'où un entretien systématique au quatrième mois de grossesse pour identifier les futures mamans en difficulté qui ne savent rien de l'éducation d'un enfant. Dans le même esprit, le texte rend obligatoire les visites médicales aux âges de 6 et 12 ans. La plupart des professionnels se disent satisfaits de ce nouveau dispositif, mais certaines associations s'interrogent. À leurs yeux, les services sociaux ne peuvent résoudre seuls les problèmes. Il faut travailler avec la justice et avec le milieu médical. Et puis, que dire du télescopage entre la réforme de la protection de l'enfance et le projet de loi sur la prévention de la délinquance, deux textes inconciliables selon ces associations.
Vous écoutez RFI, Valérie Nivelon.
La marche du monde revient sur l'histoire d'une jeunesse en marge avec vous, Mathias Gardet, et l'on retrouve cette sempiternelle question: faut-il protéger ou punir les jeunes? Et c'est un débat qui date au moins de 1945 et de son ordonnance relative à l'enfance délinquante.
C'est un débat qui date du 19e siècle. Punir ou éduquer, on retrouve toujours ce même débat en boucle. Peut-être la nouveauté du débat, c'est quel est l'accent qu'on va mettre. Est-ce qu'on va mettre l'accent sur la victime, comme on fait aujourd'hui, ou celui qui est l'auteur d'un délit et que l'on va considérer comme victime?
Cela veut dire donc qu'on a également changé son regard sur l'enfance de façon générale?
Oui, on a changé le regard, puisque quand on regarde le principe de l'ordonnance de 45 que l'on remet en question aujourd'hui, c'est bien l'enfant auteur d'un délit qui est considéré comme une victime. Et c'est bien l'enfant qui va intéresser plus que le délit. Aujourd'hui, semble-t-il, c'est avant tout le délit qui est au cœur du problème et la victime qui a subi le préjudice du délit et non pas l'auteur.
Et c'est aussi aujourd'hui le retour de l'internat, une institution pourtant rejetée dans les années 70, dont on retrouve aujourd'hui les vertus. Écoutez ce reportage d'archives signé Frédéric Lebel.
Les vastes grilles automatisées marquent l'entrée dans un autre monde. À Sourdin, les adolescents n'ont pas de portable. Ils disposent d'équipements hors du commun comme un cinéma, un centre équestre et un stade. Et leur école est déjà décrétée d'excellence. Bref, sous la loupe de l'éducation nationale, des médias et du gouvernement, Bernard Lagier, professeur d'histoire, s'apprête à commencer son premier cours de l'après-midi et son enthousiasme n'a d'égal que celui de ses élèves.
Il y a un très bon allant, c'est-à-dire qu'ils sont volontaires, quelles que soient les difficultés, difficultés sociales, difficultés scolaires, ils essayent. Et pour cela, ils méritent qu'on les soutienne, qu'on se batte pour eux.
Ici, tout a été mis en œuvre pour donner le maximum de chances à des élèves qui n'en avaient pas beaucoup. Et l'adaptation fut rude. Revue de détail avec Mounir, Déborah et Abdelkader.
Non, mais c'était vraiment trop dur au début. Genre, c'était impossible. Le rythme, il était très soutenu. Mais je pense que c'est une bonne chose.
Et tu tiens pourquoi?
Parce que j'ai envie de réussir. C'est que je me dis, peut-être ça va m'emmener quelque part. Et genre là maintenant, je travaille tout ça.
Pourquoi? Parce qu'on t'y oblige?
Ouais, bah un peu, parce qu'il y a surtout rien d'autre à faire.
C'est un choix très sérieux pour une jeune fille de 15 ans.
Ouais, c'est vrai, parce que ça veut dire que je prends de l'engagement pour mon avenir déjà. Beaucoup de choses me passionnent vraiment, quoi. On a beaucoup d'apprentissage culturel. c'est génial. Et c'est vrai que j'en profite au max parce que j'aurais jamais eu cet avantage auparavant.
L'année dernière, je travaillais 5 minutes, 10 minutes après. C'est bon.
Et ici ?
Ouais, ici, on travaille beaucoup plus. Au moins 10 heures par semaine.
Tu fais beaucoup d'activités ?
Oui, je fais équitation, foot, sport co et natation.
Tu es content d'avoir découvert quoi, par exemple ?
L'équitation. C'est trop cher chez moi. C'est 1000 euros, tout ça. C'est cher.
Et toi, t'as une petite idée, t'es tout jeune, mais tu dis je veux réussir.
Bah oui, je veux réussir, c'est sûr.
T'as une idée de ce que tu veux faire ?
Des beaux métiers. Il n'y a pas beaucoup de taux de chômage parce que avocat et médecin, on en a tous les jours besoin. Et donc, il n'y a pas beaucoup de taux de chômage, surtout avocat.
À Sourdin, rien n'est vraiment laissé au hasard. Tout concourt à un même but, l'éducation, au savoir, à la culture, au vivre ensemble ou à la citoyenneté. Bernard Légier, le professeur d'histoire, ne rate pas une occasion. Le 11 novembre dernier, il a même rassemblé ses élèves pour une cérémonie devant le monument aux morts de 14-18, une initiative qui n'avait pourtant pas soulevé au départ l'enthousiasme de certains élèves.
« Oh monsieur, ça ne nous concerne pas, et puis de toute façon c'est pour les Français, pour certains d'entre eux. Hein. » Finalement, lorsque la cérémonie est arrivée, ils étaient fiers, très fiers. Donc il y a très peu de travail à faire, contrairement à ce que l'on pense. Ils sont Français. Certains ne le savent pas encore parce que justement on oublie de leur donner cette possibilité de s'exprimer. Et ça, c'est un oubli impardonnable.
Mathias Gardet, vous qui étudiez justement, c'est l'objet de vos recherches, ces politiques sociales à l'attention de la jeunesse en marge hein, depuis le 19e siècle, est-ce que la clé c'est l'éducation ? Est-ce que c'est là qu'il faut absolument réussir. Mais pour nos enfants ?
La grande difficulté, c'est de définir qu'est-ce que c'est que la réussite. Quand on parle de l'égalité des chances, comme c'était évoqué là dans le reportage qu'on vient d'entendre...
Un reportage de 2009.
Tout problème qu'il y a derrière, c'est qu'il faut du coup désigner qu'est-ce que c'est que l'inégalité. Et la réussite, pareil, qu'est-ce que c'est que la réussite ? Et à partir du moment où on s'est donné comme critère la réussite, c'est d'avoir le baccalauréat, voire d'avoir bac plus 2, bac plus 3, bac plus 4, la réussite, ça va être de l'avoir. Hein, quand la scolarité s'arrêtait à 13 ou à 14 ans, la réussite ne se posait pas sur la scolarité. Par exemple, l'enseignement technique, aujourd'hui, est un enseignement très largement dévalorisé, alors que dans l'entre-deux-guerres, c'était l'enseignement de pointe qui, pensait-on, allait moderniser et révolutionner la France. Donc c'est vraiment des questions d'objectifs, c'est pas simplement une question d'éducation qu'on poserait comme ça au sens large, c'est qu'est-ce qu'on entend par éducation, qu'est-ce qu'on entend par réussite, et quand on parle d'égalité, qu'est-ce qu'on entend par inégalité, qui est-ce qu'on va désigner comme inégaux par rapport aux autres.
Mathias Gardet, pour conclure, finalement, vous montrez à travers votre livre cette évolution de la représentation de la jeunesse en marge. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, justement, sur la façon dont elle a évolué, et surtout sur ce que signifie cette évolution ?
Je crois que c'est... Je l'ai déjà martelé, mais il faut le marteler. Jeunesse en marge, ce n'est pas forcément une jeunesse de marginaux. Jeunesse en marge, ça peut toucher tous les niveaux sociaux. Hein, c'est une jeunesse qui ne trouve pas sa place dans une société à un moment donné.
C'est aussi une jeunesse qui est désignée, qui est montrée du doigt.
Qui est désignée, qui est montrée du doigt ou qui est hors du système à un moment donné. Elle n'est pas marginale par nature, elle se retrouve à la marge à un moment donné, dans un contexte donné, un contexte économique, social et politique d'une société à un moment donné.
Donc vous contredisez le déterminisme social. On peut être jeunesse dorée, vous l'avez dit, pour 68 et être à la marge.
Tout à fait.
Merci Mathias Gardet. Je rappelle votre livre coécrit avec Fabienne Wax, Histoire d'une jeunesse en marge. C'est aux éditions Textuelles. La jeunesse est dans la rue. C'était une marche du monde réalisée par Cécile Pompéani avec la complicité de Johnny Hallyday, Françoise Hardy, Sylvie Vartan, Jacques Dutronc, les Berruriers Noirs et le groupe IAM. N'hésitez pas à vous exprimer sur la page Facebook de l'émission. Réagissez, podcastez, cette émission, c'est la vôtre.
Je
Être si jeune, en avoir plein le répertoire, dégarrillé de la carte qu'on efface comme un tableau du pas où c'est le noir. Croire en qui, en quoi, les mecs sont tous des miroirs, vont dans le même sens, veulent s'en mettre plein les tiroirs. Tiroirs, on y passe notre vie, on y finit avant de connaître l'enfer. Sur terre, on construit son paradis fiction. Des illusions trop fortes sort le chichon. La réalité tape trop dur, besoin d'évasion. Évasion, évasion, effort d'imagination. Ici tout est gris, demain c'est loin, on n'est pas pressé. Au fur et à mesure, on avance en surveillant nos fesses pour parler au futur.
Je pense pas à demain, parce que demain c'est loin.